Bonjour, l'émission de cette semaine est une rediffusion de l'atelier du 2 décembre dernier. Bonne écoute.
L'atelier des médias, Ziad Malouf.
Lundi dernier, j'avais rendez-vous dans un bureau de la Tour Montparnasse. C'était la première fois que j'avais l'occasion de grimper dans ce gratte-ciel le plus élevé de notre capitale et d'admirer Paris de là. J'étais ému, assis dans un fauteuil, contemplant la vue devant une large fenêtre, mais j'ai tout de même eu le réflexe d'allumer mon enregistreur pour rattraper au vol ces quelques mots que nous échangeons de manière informel avec mon hôte. Il me parlait de la réaction d'un jeune arrivant pour un stage dans le journal qui m'accueille ce jour-là.
Il y a un stagiaire qui arrive et qui regarde et dit « Ah bon, d'accord, c'est une start-up de vieux !» C'est parce qu'en effet, il faut dire que nous, on est tous des journalistes assez confirmés. Et il faut ça parce que tous les jours, on doit négocier avec des experts, des universitaires, des chercheurs, bon, qui sont très capés souvent, etc. Et on leur doit leur demander de réécrire leurs papiers, de les couper, etc. Donc il faut plutôt des gens d'expérience, quoi. Et c'est vrai que on a lancé avec le petit groupe de cinq, là, on a lancé ça. Il y a l'ancien directeur de la rédaction de Libé, Fabrice Rousselot. Moi, je suis l'ancien directeur adjoint du Monde, l'ancienne directrice de la revue La Recherche. Bon, voilà, tout ça, c'est des gens qui se sont mis ensemble pour lancer ce site avec une vraie envie, quoi. Mais c'est vrai qu'on n'est pas le start-upper habituel qu'on voit notamment autour de nous, puisque nous sommes hébergés dans un lieu où il y a plusieurs start-up, quoi.
Une start-up de vieux, ce n'est pas comme cela que j'aurais osé vous présenter The Conversation France, un site lancé par Didier Pourquery que vous venez d'entendre et quatre autres professionnels de l'information il y a 2 ans. The Conversation France est le petit frère d'un média australien né il y a 6 ans.
Chacun d'entre nous, on est des journalistes assez particuliers, c'est-à-dire qu'on a tous travaillé avec une véritable envie de nourrir le débat public. C'est-à-dire que on fait du journalisme qui explique, qui va voir, du journalisme qui partage. Il y a un mot très important dans notre démarche, qui est le mot de partage. Alors il y a de la curiosité d'un côté, mais aussi du partage de l'autre. Et quand en 2011 s'est lancé en Australie ce site qui s'appelait The Conversation, c'était là-dessus, c'était partager le savoir des experts universitaires pour éclairer le débat citoyen. Et une association, c'est-à-dire que, c'est aussi important ça, en finir avec des médias qui appartiennent à des actionnaires, à des médias qui dépendent de la publicité. Là, c'est un média qui est totalement indépendant à la fois des actionnaires et de la publicité, puisque c'est une association avec des membres, et ce sont les universités qui sont membres adhérents. Et qui font vivre cette association. C'est l'association, c'est comme quand vous êtes bouliste et que vous avez une association de boulistes, et vous faites tous partie de l'association, mais là c'est pareil. En France, aujourd'hui, on a 70 membres. Alors au départ, notre idée, c'était de. Quand on a entendu parler de ça, le premier, c'était Fabrice Rousselot, qui est le directeur de la publication, qui est à New York depuis quelques années. Il avait entendu parler de ça, il a dit c'est magnifique, tout ça. Et donc on a constitué le petit groupe de départ avec cette volonté de faire ça. Pourquoi? Parce que, en partie, on voit bien qu'aujourd'hui, qu'il y a un gros problème de confiance et de crédibilité des médias traditionnelle, qui est ennuyeuse parce que le débat public se fait souvent en dehors de débats rationnels et de débats solides, mais c'est plutôt, ça se base sur des opinions. Or là, on fait un journalisme d'analyse, on fait un journalisme de partage de savoir. C'est-à-dire, on ne fait pas un journalisme d'opinion. Ce qu'on publie sur notre site, ce n'est pas des tribunes libres. Ce sont des gens qui ont travaillé sur un sujet pendant souvent des années, et qui le partage avec le public.
Entre journalisme et recherche, l'émergence de médias intermédiaires. C'est le titre de l'émission du jour consacrée à ce que notre premier invité appelle des start-up de vieux. Quand on imagine les médias nés des opportunités qu'offre Internet, on songe généralement à des objets jeunes, sexy, légers. Les publications dont on va parler aujourd'hui sont jeunes, mais elles sont portées par des journalistes aguerris, retraités pour certains. Tous font le pari d'une qualité extrême, privilégiant la recherche, l'expertise académique aux méthodes journalistiques traditionnelles. Pourquoi Didier Pourquery, que nous allons retrouver dans un instant, mais également Alain Grèche, qui a lancé Orient 21 il y a 4 ans, ou Sylvain Bourmeau, qui vient d'annoncer la création d'un quotidien AOC, écrit par des chercheurs et des intellectuels prévus pour la mi-janvier. Pourquoi ces figures du journalisme ont ressenti le besoin, après une longue carrière, de miser sur une approche nouvelle, plus lente, moins ambitieuse en quantité, mais beaucoup plus en qualité. C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre aujourd'hui.
RFI.
Didier Pourquery a été directeur adjoint du Monde. Il est cofondateur de The Conversation France, un site édité par des journalistes qui ne publient que des papiers écrits par des chercheurs.
Oui, en fait, ce qu'on fait là, c'est qu'on a une équipe de 12 personnes qui, c'est une vraie rédaction, mais c'est un site collaboratif. C'est-à-dire que celui qui signe, c'est l'auteur universitaire. Et nous, on est là pour l'aider. Mais on fait du véritable journalisme, si je peux dire, c'est que on repère le sujet, on commande le sujet et on l'édite. Donc, en fait, on fait un travail d'édition, de journalisme d'édition.
Mais de aussi, rédaction en chef, on peut
de
dire.
De rédaction en chef, mais aussi de repérage des sujets. Et ensuite, on le diffuse, on travaille pour le diffuser. C'est-à-dire que notre but, c'est que chaque article soit le plus lu possible. On n'est pas là pour faire du clic. On ne va pas mettre des vidéos de petits chats sur notre site pour faire venir des gens sur notre site. On est là pour nourrir le débat public. Donc, c'est très modeste, on dit, si les gens veulent reprendre nos papiers, tout le monde peut les reprendre. Tout le monde peut reprendre les papiers gratuitement, et tout le monde peut y accéder gratuitement également. On est là pour que, article par article, il soit le plus lu possible. Si cet article, il est lu sur le site de RFI, ou sur le site de France TV Info, ou sur le site de Slate, ou sur le beaucoup plus que sur le site de The Conversation, tant mieux. On est content parce que c'est ce qui nous importe, que article par article, ça soit le plus lu.
Alors quand on regarde les contenus de The Conversation, d'ailleurs, puisque je suis en train d'utiliser le mot, il y a quelque chose d'un peu dans le nom, il y a quelque chose qui est peut-être un peu trompeur, c'est-à-dire que quand on parle de conversation, peut-être même en anglais, on songe à quelque chose de léger, enfin de discussion entre des personnes. Là, c'est quand même des contenus extrêmement soutenus.
Non, en fait, le titre, il vient du fait que il faut nourrir la conversation, mais la conversation publique, c'est-à-dire la conversation commune, ce qu'on appelle chez nous le débat citoyen. Un, on nourrit la conversation citoyenne, et deux, on demande aux gens qui nous lisent de réagir. Donc, ils écrivent des commentaires. Alors, on a une charte des commentaires très, très stricte. Hein. C'est-à-dire que les gens qui commentent les articles, ils font attention à ce qu'ils écrivent. C'est-à-dire qu'ils écrivent quelque chose de positif, de
complémentaire.
Ils contribuent à la conversation. On n'est pas dans l'anathème ou je ne sais pas trop quoi. Là, on fait très attention à ça. Donc, conversation, c'est dans ces deux sens-là. Et en anglais, parce que c'est un réseau essentiellement anglo-saxon, il y a 45 000 auteurs dans le monde qui écrivent pour The Conversation. 45 000.
Qui ont écrit.
Ou qui ont écrit. Et en France, dans le francophone, c'est 1800.
Quand on regarde le site, on est frappé par deux choses. D'abord, ce à quoi on s'attend, c'est-à-dire découvrir des sujets auxquels qu'on ne connaît pas du tout. Exemple, sur la une en ce moment, on peut lire un article sur la collapsologie et une interrogation par un chercheur sur l'idée, est-ce que la collapsologie est une science ou ne l'est-elle pas ? Donc, collapse en anglais, c'est l'effondrement, mais bon, évidemment, une immense majorité de personnes, même éduquées, ne savent pas, ne connaissent pas du tout ce terme. Et on peut voir aussi des sujets beaucoup plus actuels, et c'est étonnant, comme un article qui réagit à un fait divers qui a eu lieu à Paris tout récemment, un tigre qui a été abattu dans la rue, et donc une chercheure, je crois que c'est une dame, qui partage son travail sur la présence d'animaux et qui contribue au débat, ou autre type d'article, donc sur un sujet beaucoup plus important, sur le piratage de la compagnie américaine Uber, donc sur la manière dont elle a géré, etc. Donc là, un sujet de portée internationale, très très important, peut-être un peu méconnu, mais qu'on s'étonne également de voir traiter dans ce contexte où on s'attend à voir des sujets donc plus de l'ordre de la collapsologie, etc.
Alors, nous, on essaye d'avoir un équilibre entre, en effet, des chercheurs très... Vous parliez de David Glantz, qui est australien, mais qui écrit en français aussi, qui est très très fort sur tout ce qui est cybersécurité, etc. C'est même son domaine, il est expert auprès de l'OCDE, etc. Il travaille à l'université de Western Australia, mais il est à l'OCDE. Donc lui, quand il intervient, c'est très solide. Et il a le souci d'expliquer très très bien, par exemple, le hacking dont a été victime le réseau Uber. Et puis, dans d'autres cas, c'est l'actualité chaude, mais on n'est pas dans la réaction. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le commentaire d'actualité. Les gens qui nous proposent des papiers, ils savent que chez nous, ce qu'ils vont faire, c'est de se dire « Ah, j'ai travaillé sur ce sujet, j'ai quelque chose à apporter au débat, je vais le faire ». Mais ils ne vont pas dire « Tiens, j'ai envie de raconter ce que j'en pense » ou « mon commentaire là-dessus ». Ça, ce n'est pas le but du jeu. Le but du jeu, c'est vraiment d'apporter un élément particulier. Après, on n'est pas dans le journalisme d'investigation, c'est-à-dire qu'on est dans le journalisme, je dirais, d'explication, dans le journalisme de transmission de savoir.
D'accord ? De facilitation aussi, peut-être.
Exactement, de facilitation. On est là pour faire en sorte que le débat public se passe bien, avec des gens informés. Aujourd'hui, au moment où on parle de post-vérité, de fake news, etc., de désinformation, de propagande, en tout cas de débats fondés sur des opinions, plutôt que sur des faits. Écoutez, c'est hyper simple. Notre vision du travail journalistique, notre contribution, et encore une fois, je ne dis pas que nous, on est un média de complément. Mais ce complément, c'est apporter des faits, c'est-à-dire des études. L'année dernière, on a beaucoup travaillé sur la loi travail, la loi El Khomri, avec des études d'économistes qui analysaient l'impact et les conséquences de la loi El Khomri en se demandant, par exemple, si ça allait créer des emplois ou pas, et en donnant la réponse de leur modèle économique. Actuellement, il y a des économistes qui travaillent pour nous sur l'impact de la baisse de la taxe d'habitation, à la fois sur les collectivités territoriales et sur la vie des contribuables. Vous voyez ? Et ça... C'est des faits, c'est-à-dire ceux qui travaillent et ce qu'ils apportent à la communauté, ce sont des faits. Et attention, hein, n'imaginez pas que ça reste dans le petit monde universitaire. C'est-à-dire que les papiers sur la loi El Khomri dont je vous parlais, c'est les papiers qui ont été repris par Sud-Ouest, par Ouest France, par Slate, par le Huffington Post, et qui ont été très bien lus. Pratiquement aussi lu que des papiers à l'époque de Tribune qui disaient « je suis contre ou je suis pour la loi El Khomri ». Parce qu'à la limite, être pour ou contre, tout le monde a son opinion. Mais là, c'était pas dans le domaine de l'opinion, c'était dans le domaine des faits.
Vous écoutez l'atelier des médias RFI. Nous parlons cette semaine de médias qui se servent des outils, des techniques du journalisme pour donner la parole à des chercheurs, des scientifiques, des spécialistes. Nous sommes avec Didier Pourquery, ancien directeur adjoint du Monde, passé également par Science et Vie, La Tribune, L'Expansion, Libération. Il est cofondateur et directeur de la rédaction de The Conversation France, la version locale d'un projet lancé en Australie en 2011. Il existe plusieurs antenne de The Conversation dans le monde, dont une est d'ailleurs consacrée à l'Afrique.
Nous, on s'appelle The Conversation France, mais en fait, on est The Conversation francophone. C'est-à-dire qu'on est soutenu par l'Agence universitaire de la francophonie. Et en ce sens-là, par exemple, aujourd'hui, je publie un papier d'un chercheur de l'université Aube Nouvelle de Ouagadougou. Très intéressant, super papier sur les nouvelles manières de faire du financement participatif en Afrique. Donc, vous voyez, et on a publié aussi un papier de l'Agence française sur le développement, sur la recherche et l'éducation au Burkina Faso. Donc, on a une base qui est The Conversation Africa, en anglais, qui est basé en Afrique du Sud, au Kenya et au Nigeria. Et nous, sur le site francophone, on publie les papiers de chercheurs africains, de plus en plus, et on le met sur notre site de Conversation France et aussi sur le site de Conversation Africa, qui a un petit onglet en français. Et donc, je m'occupe de ça beaucoup parce que la francophonie, pour nous, c'est un axe de développement très important. C'est-à-dire, je suis très impliqué au développement de The Conversation Québec. Ça va s'appeler La Conversation, je vous rassure. La Conversation au Québec. Et je publie déjà toutes les semaines des chercheurs québécois. On a un certain nombre de chercheurs suisses et belges qui commencent à s'intéresser à notre travail. Et donc, comme ça, petit à petit, on va travailler sur une communauté francophone. Moi, j'aimerais beaucoup que ça se développe vite. Voilà, ça nous ouvre des portes et ça nous fait venir de nouveaux chercheurs qui viennent sur notre site.
Qu'est-ce que c'est les enseignements? Donc, ça fait 3 ans que le site a été lancé, que le projet septembre 2015, ça fait un peu plus de deux ans que c'est en ligne. Qu'est-ce que c'est les enseignements pour vous? Est-ce que vous êtes plus épanoui? Vous trouvez ça plus logique? Est-ce que c'est complémentaire de l'univers journalistique traditionnel? Qu'est-ce que c'est votre regard?
Moi, je suis très intéressé par ce qu'on appelle la médiation scientifique. Et elle m'intéresse beaucoup. D'autant plus que j'ai l'impression d'être au cœur de quelque chose de très important, qui est la bataille contre les fausses informations. Franchement, c'est le moment ou jamais où il fallait lancer The Conversation. Je ne dis pas, et à aucun moment, que c'est un média qui résout tous les problèmes. Pas du tout. C'est, encore une fois, c'est un média qui a sa fonction dans son domaine. Mais j'ai vraiment l'impression de contribuer à combattre un certain nombre de fausses informations qui peuvent circuler ou d'opinions mal fondées. Vous voyez, des opinions qui circulent. Vous voyez, par exemple, je rêve d'avoir un vrai papier et je vais l'avoir, hein, mais je le recherche pour le moment sur les aides publiques au logement, les APL et leur impact sur les loyers. Parce que tout le monde dit, si on augmente les APL, les loyers augmentent, vous voyez. Et donc, si on baisse de 5 euros les APL, ben, les loyers vont baisser. Je ne pense pas que ça soit ça. Mais ça, c'est une intuition que j'ai. Et j'aimerais vraiment beaucoup que des économistes me racontent ce qu'ils ont trouvé là-dessus. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Et c'est pas politique, à la limite. C'est des discussions. Ça fait des discussions. On aime beaucoup ça en France. On est pour ou on est contre. C'est pas le sujet, là, en l'occurrence. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est là où la science a des vrais... Et si vous voulez, pour moi, ça fait presque 40 ans que je fais du journalisme. J'ai l'impression d'avoir découvert avec ça une nouvelle façon d'en faire à partir d'une autre source de faits, si vous voulez, qui est l'expertise. Il ne faut pas oublier que les chercheurs, il y a une charte européenne des chercheurs. Et cette charte européenne des chercheurs dit, entre autres, que le chercheur doit rendre à la société ce que la société lui a donné. Et c'est très important aujourd'hui, notamment chez les jeunes chercheurs, cette idée qu'ils sont souvent payés par l'argent public et qu'ils travaillent beaucoup, mais une partie de leur travail doit être rendue publique. Y compris sur des revues, comme The Conversation, entre guillemets, qui ne leur apportent pas de points dans leur carrière. Vous voyez ? Mais c'est juste parce qu'ils mettent à disposition du public les travaux qu'ils ont faits. Ils rendent à la société ce que la société leur a donné sous forme de soutien.
The Conversation est un site gratuit dont les contenus sont sous licence libre, c'est-à-dire que tous les médias, tous les sites internet peuvent republier les articles en respectant certaines règles. C'est Sonia Zanad qui gère la diffusion de contenus auprès des autres médias.
Alors oui, c'est vrai, c'est un média en soi qui fonctionne aussi indépendamment des republications. Mais en fait, l'objectif principal, c'est quand même de diffuser la recherche de façon vraiment très large. Donc on retravaille les articles pour qu'ils soient grand public et pour que justement ils puissent toucher un maximum de lecteurs, que ce soit sur le site ou via les republications. Mais en fait, l'objectif, c'est vraiment donner de la visibilité à la recherche française et à nos auteurs, nos contributeurs, qui sont voilà, tous spécialistes d'un domaine qu'on ne va pas forcément entendre ou voir ailleurs.
Pour en savoir plus sur The Conversation, c'est sur theconversation.com/fr pour la version française. Restez avec nous. Dans un instant, nous serons avec Alain Gresh, d'Orient 21, et Sylvain Bourmeau, qui lance AOC pour analyse, opinion, critique. Atelier des médias. Jamais dans l'histoire de la vie médiatique française ou même mondiale, on a vu autant de nouveaux projets émerger. Après vous avoir parlé de jeunes médias indépendants misant sur les reportages au long cours il y a deux semaines, du nouvel essor de la presse jeunesse il y a sept jours, nous consacrons l'émission aujourd'hui à l'émergence de médias qui jouent un rôle d'intermédiaire entre la recherche académique et le journalisme.
Je pense qu'ici, il y a différents projets qui sollicitent des intellectuels et chercheurs aujourd'hui. C'est en raison en partie de ce que j'appelle la crise du journalisme et qui tient à une excessive professionnalisation, technicisation, homogénéisation du journalisme qui passe d'abord par ce qu'on apprend dans les écoles de journalisme et qui relève souvent, hélas, d'une forme d'anti-intellectualisme assez inquiétant. Donc il y a forcément un mouvement en réaction.
Lui, c'est Sylvain Bourmeau. Comme chacun de nos invités du jour, il a une belle carrière dans les médias traditionnels. Il s'apprête à lancer AOC, un quotidien écrit par des intellectuels, des chercheurs, des auteurs. Il nous en dira plus dans quelques minutes. Avant cela, donnons la parole à une autre figure du journalisme français.
Donc, je m'appelle Alain Gresh, je suis journaliste spécialisé dans le Proche-Orient. Je suis moi-même né en Égypte où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans. J'ai beaucoup écrit au départ sur... parce que j'ai fait une thèse sur l'organisation de libération de la Palestine. Ensuite, j'ai beaucoup écrit sur le conflit israélo-palestinien. Et depuis une quinzaine d'années, j'ai beaucoup écrit sur l'islam politique dans le monde arabe et, par ricochet, si on peut dire, surtout les débats sur l'islam en France et le problème des musulmans en France.
Alain Gresh a lancé il y a 4 ans un nouveau média en ligne, son nom Orient 21, une publication consacrée bien sûr aux Proches et au Moyen-Orient.
Donc moi j'étais rédacteur en chef du Monde Diplomatique et j'ai travaillé au Monde Diplomatique pendant 30 ans. Et donc au moment où s'est approché l'âge de la retraite et où j'avais envie de faire autre chose aussi, pour être très franc, j'ai commencé à réfléchir sur ce projet et c'est arrivé aussi au moment des débuts des révolutions arabes. C'est-à-dire l'impression que quelque chose de fondamental était en train de changer dans le monde arabe, avec une multitude d'événements politiques, culturels, économiques, etc. Et avec une presse qui, pour qui, quand même, malgré l'importance de la région, n'est pas toujours à même de suivre. Une chose qui m'avait frappé, c'est à un moment, tout le monde est allé en Tunisie parce que c'était le début de la révolution. Et puis, il y a eu les événements en Égypte en 2011 et tout le monde est allé en Égypte. Et on a oublié pas tout à fait, mais on a oublié la Tunisie. Donc l'idée qu'il fallait prendre une approche de long terme, prendre le temps d'expliquer, et c'est comme ça qu'est né un peu Orient 21, et ça s'est mis en place, je dois le dire, de manière très très artisanale, c'est-à-dire au départ, et bon, c'est d'ailleurs le grand avantage d'Internet, c'est qu'avec peu de moyens, il faut des moyens bien sûr, mais avec peu de moyens, on peut lancer un projet. Donc ça voulait dire à la fois regrouper des gens. Donc on a regroupé des journalistes, des chercheurs, en tenant en compte le fait que l'école française de recherche sur le Proche-Orient est très développée, qu'il y a une nouvelle génération de chercheurs qui connaissent bien le terrain, arabisant, etc., qui n'ont pas toujours le débouché pour ce qu'ils écrivent, quoi. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'était aussi, il y avait un point de vue politique, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas d'exception arabe ni d'exception musulmane. Ça veut dire que il faut analyser le monde arabe avec les mêmes outils que nous analysons toutes les sociétés. Non pas que chacune a ses spécificités, je veux dire, le rôle de la religion peut être important, etc., mais ce n'est pas à travers des grilles religieuses ou culturalistes qu'on comprend les sociétés. C'est-à-dire l'idée que l'islam est le facteur d'explication. Mais au-delà de ça, c'est-à-dire que la sociologie, l'histoire, l'économie, nous permet d'analyser les sociétés dans le monde et nous voulons aussi utiliser ces outils d'analyse laïque, je dirais, pour analyser ces sociétés. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la religion ne joue pas un rôle important, mais on voit bien, je veux dire, quand aujourd'hui tout le monde vous parle sunnite, chiite, c'est vrai que c'est un élément, mais Je donne toujours l'exemple du Liban, où il y a des tensions aujourd'hui. Pendant très longtemps, les mariages mixtes sunnites-chiites étaient vraiment quelque chose de très banal. Ou bien en 2006, quand il y a eu la guerre entre le Hezbollah et Israël, toutes les villes arabes se sont mobilisées autour du Hezbollah. Et pourtant, c'était les chiites. Donc, si vous voulez, encore une fois, la religion joue un rôle plus important que dans nos sociétés, mais ce n'est pas le facteur d'explication. Or, il y a quand même une tendance à faire de l'islam, et je dirais parfois du Coran, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre Al-Qaïda en lisant le Coran, ce qui me semble assez ridicule.
On va parler de la manière dont vous fonctionnez à Orient 21, mais je voudrais qu'on revienne quand même sur votre choix dès le début d'inclure plusieurs profils de personnes, c'est-à-dire que ce projet a été lancé par des journalistes et également par des chercheurs, d'anciens diplomates, des militants associatifs, etc.
Il y a même un général de réserve qui est membre de notre comité de rédaction. Peut-être c'est à jouer mon expérience au monde diplomatique, où c'est du journalisme, mais à la fois c'est la parole des j'aime pas le terme d'experts, parce que des experts en terrorisme, il y en a tellement, mais de prendre des chercheurs, des gens qui sont sur le terrain, comment dire, de croiser les analyses. Moi, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, deux dernières décennies sur l'Arabie Saoudite. J'ai créé un groupe d'échange d'informations, etc. Et j'ai voulu mettre ensemble des chercheurs, des politiques, des journalistes, des hommes d'affaires, parce qu'on ne peut pas comprendre un pays aussi complexe que l'Arabie Saoudite avec simplement une grille d'analyse, quoi.
Quand on explore maintenant votre site, il y a différentes rubriques. Donc il y a la page d'accueil que vous appelez le magazine, c'est ça? C'est là qu'on peut lire donc tous les articles. Et il y a d'ailleurs plusieurs pages d'accueil puisque le site existe en 4 langues, en français, en anglais, en arabe et en farsi, c'est ça?
Ouais. La grande nouveauté, pas innovation, c'est le farsi. Depuis une semaine, 15 jours.
Donc la langue de l'Iran. Hein.
Voilà, oui, la langue de l'Iran, pardon. Donc effectivement, il y a ça. Mais en revanche, ce qu'il y a, c'est que après, nous avons des rubriques qui se sont constituées au fil du temps. On a une rubrique sur la guerre de 14-18 dans le monde arabe, avec on a eu publié 25-30 articles. Mais alors là, c'est des articles vraiment d'historiens, beaucoup plus longs, etc., mais qui sont très importants.
Et qui sont donc, pour ceux qui connaissent pas le monde arabe ou peu, c'est une période très importante puisque c'est une période de tournant avec la chute de l'Empire ottoman et la naissance de tous les États qu'on connaît aujourd'hui,
tels qu'on les connaissait en tous les cas jusque dans les années 2010. C'est-à-dire donc effectivement, c'est quelque chose de très important. C'est la naissance aussi du problème palestinien, la déclaration Balfour, etc. Donc ça aussi, c'est important.
Vous vous êtes lancé en 2013, c'est oui, ça
c'est
donc
le c'est octobre
2013. Enfin, donc il y a 4 ans. Aujourd'hui, vous considérez que vous êtes à un tournant. Vous avez fait notamment un appel aux dons. Vous dites que vous avez besoin de 60 000 euros pour financer votre tournant, 30 000 euros que vous avez déjà et 30 000 que doivent vous donner vos lecteurs.
Voilà. Alors, nous, on vit sur un budget quand même, puisqu'on a un salaire et demi et qu'on paye. Il y a les traductions, 2 traductions en arabe, 1 traduction en anglais toutes les semaines, ça coûte de l'argent. On vit déjà sur des demandes à nos lecteurs. Mais on peut dire globalement, cette année 2017, on va arriver à équilibrer le budget. Mais on a des projets de développement qui doivent être à la fois de développer la partie arabe, qu'on voudrait plus importante, et aussi de développer le travail journalistique, c'est-à-dire avoir plus de reportages, éventuellement de recruter. On devrait avoir, j'espère, d'ici la fin de l'année, des locaux indépendants. Donc pour tout ça, je dirais d'une certaine manière, on peut dire qu'il faudrait arriver à un stade de professionnalisation, c'est-à-dire où la pérennité du projet ne repose pas uniquement sur le volontariat, mais repose sur des recettes régulières. Donc on fait un appel aux dons et en même temps on réfléchit sur une refonte du site et on va faire un appel à nos lecteurs pour les interroger sur... comment ils voient le site, est-ce qu'ils sont prêts à payer éventuellement, est-ce qu'ils sont prêts à faire des dons réguliers, etc., de manière à trouver un équilibre plus stable, je dirais, financier.
Parce que vous avez fait le choix, à un moment où de moins en moins de médias en ligne font ce choix, d'être entièrement accessible et gratuit, alors que le modèle de l'abonnement est celui qui est choisi par la plupart des gens aujourd'hui.
Oui, c'est vrai, mais la plupart des gens, si vous voulez, si vous prenez le modèle de Mediapart, c'est-à-dire, moi je pense que chaque modèle est particulier. C'est le modèle de Mediapart, c'est Ils partent avec l'image d'Edoui Plenel, avec un soutien financier relativement important, sur un projet qui est un projet général. Nous, on est dans un projet de créneau. Je pense qu'on n'aurait pas pu trouver l'argent avant de le lancer. Il fallait le lancer. Et ce lancement nous a permis effectivement de trouver, on a trouvé un peu de financement, d'associations, de l'Institut français, voilà. Donc il fallait lancer le projet, il fallait l'installer, il fallait montrer que c'était sérieux, que c'était durable. Et à partir de là, je pense qu'on peut essayer de réfléchir sur une nouvelle étape, qui est de savoir effectivement comment on marie le gratuit et le payant. Et c'est pour ça aussi qu'on veut interroger nos lecteurs qui sont... de savoir dans quelle mesure ils sont prêts à aider. Comme on dit, l'information, ça coûte cher. Donc, il y a un moment où les lecteurs aussi doivent être mis devant leurs responsabilités.
Vous vous êtes lancé aussi, vous l'avez rappelé, dans un contexte de changement, enfin dans la vague de changement que connaissait le monde arabe, avec donc une série d'événements qu'on a appelés des révolutions, le renversement de dictatures anciennes, etc. Et on vit aujourd'hui une époque un peu de désillusion hein, par rapport à cette période. Est-ce que ça touche votre projet aussi, ou est-ce qu'au contraire, ça le rend encore plus nécessaire ?
Moi, je pense que ça le rend plus nécessaire, d'abord parce qu'on est confronté à ce qu'on appelle le terrorisme, même si je n'aime pas la formule, parce qu'on est toujours le terroriste de quelqu'un. Mais effectivement, donc, au fait que ce qui se passe dans ces régions a des répercussions sur ce qui se passe chez nous, donc en partie ça devient un débat aussi de politique intérieure. Je pense aussi que ça a une conséquence, c'est de faire encore plus de l'islam la grille d'analyse de ces sociétés. À travers le terrorisme, la guerre mondiale contre le terrorisme, l'islamisme, etc., on a l'impression que c'est la seule grille d'analyse qui permette de comprendre cette région. Donc je dirais que ça me semble encore plus important pour nous d'être présents sur ce terrain et de continuer sur l'idée que ces sociétés ne sont pas fondamentalement différentes de nous.
J'ai regardé, du coup, vous avez publié beaucoup d'articles, j'ai pas pu tout lire, mais prenons un exemple. Tout récemment, donc, il y a eu la crise libanaise avec la démission du ministre Hariri. J'ai vu que vous aviez publié un papier dessus qui s'appuie notamment sur une enquête de Reuters pour savoir dans quelles circonstances exactement sa démission forcée, entre guillemets, s'est passée en Arabie Saoudite. Qu'est-ce que vous apportez, vous avez l'impression, dans le paysage informationnel sur cette région, sur un sujet comme celui-là ?
On est moins un journalisme d'information au sens, par exemple, l'enquête de Reuters. Bon, il pourrait arriver qu'on arrive, nous, à faire ça, mais c'est peu probable. Et c'est pas ce type. Nous, ce qu'on essaie d'apporter, c'est un éclairage. C'est-à-dire éclairer cette crise libanaise, montrer quels sont les acteurs, qu'il y a l'Arabie saoudite, mais aussi Israël, aussi les États-Unis, la France, etc., avec les contacts. Et aussi, peut-être, bon, moi je pense qu'il y a une chose aussi qui est très importante, c'est la profondeur historique, surtout dans la région. C'est une région, on a parlé de la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, là-bas, c'est l'actualité. C'est quand les gens parlent du partage de Sykes-Picot réalisé par les Français et les Britanniques, ils parlent d'aujourd'hui et ils ont le sentiment de parler d'aujourd'hui. Ça, on a parfois du mal à le comprendre, parce que nous, finalement, même la guerre de 14-18, bon, ça va, on a terminé, on a tourné la page. Pas tout à fait, mais ça pèse dans les mémoires, mais pas de la même manière, pas avec cette idée, je veux dire, le débat dans le monde arabe, est-ce qu'il y a un nouveau Sykes-Picot qui est en cours, ou des choses comme ça, quoi. C'est-à-dire, donc, je pense que c'est important, cette profondeur historique, et le fait qu'on ait effectivement un certain nombre de journalistes expérimentés qui ont l'avantage d'être vieux, je dirais.
Vous dites, on va terminer sur ça, Orient 21, ça c'est sur la présentation du site, n'est ni un site d'information quotidienne, ni un site universitaire réservé aux seuls spécialistes, il se veut, entre guillemets, intermédiaire.
Oui. Moi, j'aime bien cette idée d'intermédiaire qui est aussi, je reconnais mon expérience du monde diplôme, c'est-à-dire de mêler, d'abord en termes humains, on mêle des journalistes et des universitaires. Mais aux universitaires, on demande quelque chose qui est de rendre leur travail accessible et on les aide à rendre leur travail accessible. Et aux journalistes, on demande d'être de vrais spécialistes de la région, c'est-à-dire de ce dont ils parlent, quoi. Et effectivement, il ne suffit pas d'aller là-bas dans un premier voyage pour comprendre ce qui se passe en Palestine, en Irak, en Iran, etc. Donc, il y a cette idée d'intermédiaire et qui, si vous voulez, La presse est très diverse, elle va le rester. Il y a la presse immédiate, enfin l'information immédiate, mais maintenant c'est même plus les radios, c'est Twitter, c'est Twitter, Facebook, etc. Il y a la presse quotidienne qui rend compte, et puis il y a toute une série de projets où, je dirais, du journalisme long cours, c'est-à-dire où on prend le temps de réfléchir.
Un journalisme qui invite à réfléchir, un journalisme intermédiaire, pour reprendre l'expression d'Alain Grèche, des hommes, des femmes qui, forts de leur expérience dans le domaine de l'information, décident de mettre la barre plus haut.
Je m'appelle Sylvain Bourmeau, je suis journaliste, producteur d'une émission sur France Culture qui s'appelle La Suite dans les idées, et je suis également professeur associé à l'École des hautes études en sciences sociales.
Troisième et dernière étape de notre périple du jour, je suis à l'École des hautes études en sciences sociales face à Sylvain Bourmeau, journaliste et enseignant. Il a annoncé il y a un mois le lancement prochain d'un média au nom étrange, AOC.
AOC est un journal, il a beau être numérique, ça n'en est pas moins un journal, c'est pas un site web. Il y a une différence très importante pour moi entre les deux. C'est un journal numérique quotidien, qui à partir de la mi-janvier paraîtra donc chaque jour et proposera du lundi au vendredi une analyse, une opinion et une critique, d'où son titre AOC. Et puis le samedi, un grand entretien et le dimanche, un texte de fiction. Cette idée ancienne m'est venue il y a plus de 30 ans quand je travaillais sur un sociologue américain qui s'appelle Robert Park, qui a été le fondateur de l'école de sociologie de Chicago dans les années 20. Avant ça, il a été un grand journaliste, il est devenu sociologue à l'âge de 50 ans simplement. Et il a eu l'idée de créer avec un autre journaliste un journal qui se serait appelé Thought News.
Thought News, donc le journal de la pensée, quoi.
Voilà, le journal de la pensée. Et l'idée était que les outils de la philosophie à l'époque, de la psychologie, permettaient d'analyser les événements de l'actualité autrement que le faisait le journalisme. Et l'enjeu était celui-là. C'est dans le cadre de l'université d'Harvard qu'ils ont essayé de lancer ce journal et ils n'ont pas réussi. Alors moi j'ai travaillé il y a très longtemps sur Park, j'avais découvert ce projet et je m'étais toujours dit c'est une idée absolument géniale, il faudra arriver un jour dans ma vie, je voudrais arriver à créer ça. Et je pense qu'Internet rend possible aujourd'hui ce type de projet, parce qu'Internet peut faire baisser les coûts de distribution, peut permettre de construire un public petit, mais cohérent en quelque sorte, autour d'une idée comme celle-là. Internet nous permet de faire des choses formidables, Internet détruit aussi beaucoup de choses. Je pense que c'est le moment de tenter de reconstruire des institutions culturelles. Internet a servi surtout aux médias pour se développer considérablement, passer d'un petit nombre de lecteurs à des audiences énormes. Sauf que un public de lecteurs, c'est pas une audience. Et moi, je voudrais me servir d'Internet pour, au fond, faire l'inverse, c'est-à-dire pour reconstruire un public. Un public, c'est comme le public d'une salle de théâtre. Ce sont des gens qu'il s'agit d'aller chercher un par un, comme autrefois le lectorat d'un journal. Ce n'est pas des gens qui se trouvent par hasard devant votre site sur un écran. Ce sont des gens qui ont fait la démarche de s'abonner parce qu'ils se reconnaissent dans un projet éditorial. Voilà, donc pourquoi faire AOC aujourd'hui ? Parce que je pense qu'en France, il y a un sérieux déficit de médias intellectuels, pour le dire clairement. Et donc, voilà, je pense qu'on a besoin plus que jamais d'articles longs, d'articles qui tirent vers le haut le lecteur. C'est normal de ne pas tout comprendre quand on lit un texte. C'est même plutôt une bonne nouvelle. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on progresse. Moi, personnellement, j'ai toujours adoré lire des choses que je ne comprenais pas entièrement. Et donc, voilà, on va être assez exigeant dans la qualité éditoriale des textes qu'on va publier.
Pour l'instant, AOC, c'est un site web qui annonce simplement l'arrivée de ce média et permet de s'abonner à une infolettre. Une campagne également participative sur le site KissKissBankBank, une campagne qui a dépassé son premier objectif fixé à 18 000 euros. Et c'est enfin une page Facebook alimentée avec des vidéos de personnalités du monde universitaire, d'intellectuels qui expliquent leur soutien à ce média. Parmi ses appuis, le philosophe et essayiste camerounais Achille Mbembe.
Yeah. Un énorme besoin aujourd'hui à peu près partout d'un regard qui soit planétaire, dans la mesure où notre monde deviennent de plus en plus petits, malgré le nouvel investissement dans les frontières. Au fond, nous sommes imbriqués, exposés les uns aux autres, et ce processus, à mon avis, est irréversible. D'où l'importance, dans la sphère publique contemporaine, de développer des regards qui viennent de partout. Ceci est absolument crucial s'il nous faut effectivement confronter les divisions et les segmentations en cours, la résurgence des nationalismes, la montée du populisme et du racisme dans notre monde aujourd'hui. Et donc cette initiative, elle vient à point, et moi en particulier, j'ai hâte d'y contribuer.
C'est une très vieille idée que de proposer à des intellectuels, à des chercheurs, de réagir relativement rapidement sur une actualité à partir des connaissances de fond qu'ils ont du fait de leurs travaux. C'est ça tout simplement l'idée d'AOC. Ça rejoint aussi une préoccupation qui est la mienne, qui est de rappeler en permanence que le journalisme ne peut pas être le monopole de la profession journalistique. C'est très bien que le journalisme soit fait rigoureusement par des journalistes qui ont des cartes bleu, blanc, rouge de journalistes, et il y a eu une professionnalisation très grande de cette profession depuis une cinquantaine d'années. Mais je pense que le journalisme, dans un espace public démocratique, ça dépasse la profession journalistique. C'est une fonction sociale qui doit être prise en charge par un nombre de citoyens qui se sentent capables d'écrire. Et je pense que parmi ces citoyens, évidemment, les chercheurs, les artistes, les écrivains sont des gens particuliers, puisqu'ils ont un rapport étroit à l'écriture, un rapport étroit au savoir, et que ceux qui en ont envie doivent pouvoir prendre leur part de journalisme. En gros, l'enjeu, il est simple, hein, il est comment faire en sorte que notre espace public, qui est quand même le milieu dans lequel peut vivre et se déployer la démocratie, comment cet espace public doit être entretenu pour préserver sa diversité, sa qualité, et comment cet espace public ne peut pas être laissé aux seuls outils algorithmiques des grands sites internet, son fonctionnement.
Sur votre page Facebook, pour ne pas citer donc ce site algorithmique, il y a des vidéos de chercheurs qui vous soutiennent, de personnes, de personnalités, on va dire, de même de critiques, etc., qui vous soutiennent. Il y a l'historien également, Achille Mbembe, donc camerounais, que nos auditeurs connaissent bien, qui a annoncé qu'il allait être un de vos contributeurs. Qu'est-ce que ça veut dire être contributeur? Alors aujourd'hui, vous n'avez encore rien publié de vos contenus, mais si vous deviez réfléchir au contenu de demain, qu'est-ce que vous traiteriez, comment, à qui vous demanderiez, comment vous le demanderiez? Est-ce que vous pouvez me donner un exemple?
On peut prendre l'exemple d'Achille Mbembe, dont j'ai souhaité qu'il apparaisse comme le premier des futurs contributeurs d'AOC. D'abord pour donner un signe sur le périmètre géographique d'AOC. AOC n'est pas un journal français, AOC est un journal en français, mais qui va dépasser de très loin les frontières hexagonales. Je voudrais que tous ceux qui écrivent et lisent dans la langue française puissent y avoir accès, comme auteur et comme lecteur. Donc Achille Mbembe, c'était une manière de signifier que AOC ne signifie pas appellation d'origine contrôlée, ne renvoie pas à une dimension franco-française et franchouillarde du projet, surtout pas. AOC, c'est juste analyse opinion critique. Et Achille Mbembe était là pour le dire. Alors qu'est-ce qu'on pourrait traiter? On pourrait traiter l'actu d'aujourd'hui, c'est par exemple la visite d'Emmanuel Macron au Burkina Faso. Il se trouve que j'ai vu un post un peu énervé d'Achille Mbembe sur son mur, sur Facebook, s'agissant de cette visite, s'agissant de la fermeture des écoles dans ce pays pour recevoir un chef d'État français, ces très mauvaises habitudes qui continuent de perdurer. Voilà, on aurait pu demander à quelqu'un comme Achille ou comme un autre intellectuel africain un texte sur cette visite du président Macron dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Voilà, je pense que c'est très important qu'AOC fasse émerger des intellectuels africains, mais aussi du monde entier, parce qu'on a quand même un retard considérable en France. Si on compare avec ce qui se passe en Angleterre, les Anglais savent quand même un peu mieux que nous, quels sont les grands intellectuels africains anglophones. Ils ont beaucoup plus de place dans les journaux. En France, qui sait qui est Joseph Kizerbo, par exemple? Personne. Si, évidemment, ceux qui s'intéressent à l'Afrique, mais au-delà, personne ne sait, au point qu'on a eu un président de la République qui pensait que ce continent entier n'était pas entré dans l'histoire. Alors moi, j'avais envie de montrer qu'il y a non seulement entré dans l'histoire, mais en plus des très grands historiens africains. Donc l'idée est pour nous de demander des textes à des auteurs sur des sujets qui leur tiennent à cœur, sur des sujets sur lesquels ils sont compétents, de façon à ce que nous disposions d'un ensemble de textes comme des cartes à jouer au fond. Et notre rôle de journaliste, ça va être de jouer les bons atouts au bon moment, d'attendre sagement qu'une actualité en relation avec un texte dont on dispose déjà survienne pour publier le lendemain ce texte, quitte à en modifier le premier paragraphe pour l'accrocher à ces éléments récents. L'actualité fonctionne comme ça. Il ne faut pas croire qu'il s'agit de faire table rase tous les jours, de repartir de zéro. Les journalistes aiment bien se figurer ça. Ils aiment bien ne pas avoir trop de mémoire. Ils font comme si il fallait tout comprendre de zéro en partant sur le terrain chaque fois. Non, on sait bien, et les journalistes spécialisés le savent bien en particulier, leur compétence, elle repose sur des années d'expérience, un savoir accumulé au fil du temps et qui est réactualisé par l'actualité précisément.
AOC Analyse Opinion Critique a été lancé le 25 janvier dernier. Je vous encourage à aller lire ce journal ainsi qu'Orient 21 et The Conversation France. Entre journalisme et recherche, l'émergence de médias intermédiaires. C'était une émission signée Simon Decreuse et Ziad Malouf. En coulisses, Mathilde Saliou, Léo Caravagna, Camille Deloche. Petit message de service pour finir. Dès la semaine prochaine, l'atelier change d'horaire. Nous seront diffusés le samedi à 11h10 heure de Paris sur l'antenne Monde et à 11h10 temps universel sur l'antenne Afrique. Salut à toutes et à tous.